la mort, mais la messe de minuit. Ils se rappelèrent le temps où ils étaient heureux. Où étaient les jours qu'ils entraient dans les fermes, cherchant partout des antiquités? Rien maintenant n'occasionnerait ces heures si douces qu'emplissaient la distillerie ou la littérature. Un abîme les en séparait. Quelque chose d'irrévocable était venu. Ils voulurent faire comme autrefois une promenade dans les champs, allèrent très loin, se perdirent. De petits nuages boutonnaient dans le ciel. Le vent balançait les clochettes des avoines le long d'un pré, un ruisseau murmurait. Quand tout à coup une odeur infecte les arrêta, et ils virent sur des cailloux entre des joncs la charogne d'un chien. Les quatre membres étaient desséchés. Le rictus de la gueule découvrait sous des babines bleuâtres des crocs d'ivoire. À la place du ventre, c'était un amas de couleurs terreuses et qui semblait palpiter, tant grouillait dessus la vermine. Elle s'agitait, frappée par le soleil, sous le bourdonnement des mouches, dans cette intolérable odeur, une odeur féroce et comme dévorante. Cependant, Bouvard plissait le front et des larmes mouillaient ses yeux. Pécuchet dit stoïquement « Nous serons un jour comme ça ». L'idée de la mort les avait saisis. Ils en causèrent en revenant. Après tout, elle n'existe pas. On s'en va dans la rosée, dans la brise, dans les étoiles. On devient quelque chose de la sève des arbres, de l'éclat des pierres fines, du plumage des oiseaux. On redonne à la nature ce qu'elle vous a prêté. Et le néant qui est devant nous n'a rien de plus affreux que le néant qui se trouve derrière. Il tâchait de l'imaginer sous la forme d'une nuit intense, d'un trou sans fond, d'un évanouissement continu. N'importe quoi valait mieux que cette existence monotone, absurde et sans espoir. Ils récapitulèrent leurs besoins inassouvis. Bouvard avait toujours désiré des chevaux, des équipages, les grands crus de Bourgogne et de belles femmes complaisantes dans une habitation splendide. L'ambition de Pécuchet était le savoir philosophique. Or, le plus vaste des problèmes, celui qui contient les autres, peut se résoudre en une minute. Quand donc arriverait-elle? Oh, autant tout de suite en finir. « Comme tu voudras, » dit Bouvard. Et ils examinèrent la question du suicide. « Où est le mal de rejeter un fardeau qui vous écrase et de commettre une action ne nuisant à personne ? Si elle offensait Dieu, aurions-nous ce pouvoir ? Ce n'est pas une lâcheté, bien qu'on dise. Et l'insolence est belle de bafouer même à son détriment ce que les hommes estiment le plus. » Ils délibérèrent sur le genre de mort. Le poison faisait souffrir. Ah, pour s'égorger, il faut trop de courage. Avec l'asphyxie, on se rate souvent. Enfin, Pécuchet monta dans le grenier deux câbles de la gymnastique, puis les ayant liés à la même traverse du toit, laissa pendre un nœud coulant et avança dessous deux chaises pour atteindre aux cordes. Ce moyen fut résolu. Il se demandait quelle impression cela causerait dans l'arrondissement, où iraient ensuite leur bibliothèque, leur paperasse, leur collection. La pensée de la mort les faisait s'attendrir sur eux-mêmes. Cependant, ils ne lâchaient point leur projet, et à force d'en parler, s'y accoutumèrent. Le soir du 25 décembre, entre 10h et 11h, il réfléchissait dans le muséum, à habiller différemment. Bouvard portait une blouse sur son gilet de tricot et Pécuchet, depuis 3 mois, ne quittait plus la robe de moine par économie. Comme ils avaient grand faim, Bouvard crut hygiénique de boire un carafon d'eau de vie et Pécuchet de prendre du thé. En soulevant la bouilloire, il répandit de l'eau sur le parquet. « Maladroit !» s'écria Bouvard. Puis, trouvant l'infusion médiocre, il voulut la renforcer par 2 cuillerées de plus. Ben, ce sera exécrable, dit Puchet. Pas du tout. Et chacun tirant à soi la boîte, le plateau tomba. Une des tasses fut brisée, la dernière du beau service en porcelaine. Bouvard pâlit. Continue, saccage, ne te gêne pas. Oh, grand malheur, vraiment. Oui, un malheur, je l'attelais de mon père. Naturel, ajouta Pécuchet en ricanant. Ah, tu m'insultes. Non, mais je te fatigue, avoue-le. Et Pécuchet fut pris de colère, ou plutôt de démence. Bouvard aussi. Ils criaient à la fois tous les deux, l'un irrité par la faim, l'autre par l'alcool. La gorge de Pécuchet n'émettait plus qu'un râle. Oh, c'est infernal, une vie pareille. J'aime mieux la mort. Allez, adieu. Il prit le flambeau, tourna les talons, claqua la porte. Bouvard, au milieu des ténèbres, eut peine à l'ouvrir, courut derrière lui, arriva dans le grenier. La chandelle était par terre, et Pécuchet, debout sur une des chaises, avec le câble dans sa main. L'esprit d'imitation emporta Bouvard. « Ah, attends-moi !» Et il montait sur l'autre chaise, quand, s'arrêtant tout à coup, « Mais, nous n'avons pas fait notre testament !»« Ah, tiens, c'est juste !» Des sanglots gonflaient leur poitrine. Ils se mirent à la lucarne pour respirer. L'air était froid, et des astres nombreux brillaient dans le ciel, noir comme de l'encre. La blancheur de la neige qui couvrait la terre se perdaient dans les brumes de l'horizon. Ils aperçurent de petites lumières à ras du sol et, grandissant, se rapprochant, toutes allaient du côté de l'église. Une curiosité les y poussa. C'était la messe de minuit. Ces lumières provenaient des lanternes des bergers. Quelques-uns, sous le porche, secouaient leurs manteaux. Le serpent ronflait, l'encens fumait. Des vers suspendus dans la longueur de la nef dessinaient trois couronnes de feu multicolores, et au bout de la perspective des deux côtés du tabernacle, les cierges géants dressaient des flammes rouges. Par-dessus les têtes de la foule et les capelines des femmes, au-delà des chantres, on distinguait le prêtre dans sa chasuble d'or. À sa voix aiguë répondaient les voix fortes des hommes en plissant le jubé, et la voûte de bois tremblait sur ses arceaux de pierre. Des images représentant le chemin de la croix décoraient les murs. Au milieu du chœur, devant l'autel, un agneau était couché, les pattes sous le ventre, les oreilles toutes droites. La tiède température leur procura un singulier bien-être, et leurs pensées, orageuses tout à l'heure, se faisaient douces, comme des vagues qui s'apaisent. Ils écoutèrent l'évangile et le credo, observaient les mouvements du prêtre. Cependant, les vieux, les jeunes, les pauvresses en guenilles, les fermières en haut bonnet, les robustes gars à blond favoris, tous priaient, absorbés dans la même joie profonde, et voyaient, sur la paille d'une étable, rayonner comme un soleil le corps de l'enfant Dieu. Cette foi des autres touchait Bouvard en dépit de sa raison et Pécuchet, malgré la dureté de son cœur. Il y eut un silence. Tous les dos se courbèrent et au tintement d'une clochette, le petit agneau bêla. L'hostie fut montrée par le prêtre au bout de ses deux bras, le plus haut possible. Alors éclata un chant d'allégresse qui conviait le monde au pied du roi des anges. Bouvard et Pécuchet involontairement s'y mêlèrent, et ils sentaient comme une aurore se lever dans leur âme.